Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en direct sur Radio Imo, Radio Territoria, en direct de la Porte de Versailles pour le Salon des maires et des collectivités locales. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Berco. Bonjour. Vous êtes le maire de Laval. Bonjour, on va allumer votre micro. Voilà. Bonjour. Alors, il faut le dire, être élu local aujourd'hui, c'est composé avec des réalités multiples et parfois contradictoires, répondre aux attentes immédiates des habitants, évidemment, tout en pensant à la ville de demain, revitaliser les centres-villes face à la concurrence des périphéries, créer du logement tout en préservant la qualité de vie, mener aussi des grands projets d'aménagement, tout en maintenant l'activité économique pendant les travaux. Bref, c'est un exercice d'équilibre, on peut le dire, d'équilibre permanent.
Oui, c'est marcher sur ses deux jambes. La première jambe, c'est celle du quotidien. La machine à laver du quotidien, c'est servir les repas à la cantine pour tous les enfants, évidemment, s'assurer que la ville soit propre, ramasser les déchets, etc. Et l'autre jambe, c'est celle, évidemment, vous l'avez évoqué, du long terme, de l'aménagement, même du ménagement du territoire. Que ce soit par ses infrastructures, évidemment, et puis toutes ses composantes.
Et est-ce que les deux rentrent en confrontation ?
En tout cas, le corps humain a un cœur, évidemment, et c'est toutes les hommes et les femmes qui font le territoire, et c'est important de le dire. En tout cas, on est plutôt dans la volonté de conciliation. Je crois que l'art de la politique locale, c'est de concilier les positions, concilier les intérêts, et évidemment, même les aligner pour pouvoir, évidemment, sortir des projets qui font autant que possible consensus et font avancer le territoire. Ça, c'est important.
Alors, on va commencer par un projet phare d'aménagement. La place centrale de Laval a été livrée en juin dernier, jour de la fête de la musique. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce projet ? Quelles étaient vos ambitions derrière cette rénovation ?
C'était un projet attendu, évidemment, des Lavallois et des Lavalloises depuis de nombreuses années. Et j'ai été élu avec l'équipe municipale pour le faire. Ce qui est important, c'est de respecter à la fois le calendrier, le budget et puis la réalisation du projet qui vise à redynamiser le cœur de ville avec une place qui était plutôt un peu craignose, mal fréquentée et la transformer en un véritable espace public qui permet de se regrouper, de se rassembler, créer des animations culturelles et sportives. Et puis on y a ajouté, à poser une halle alimentaire, une halle gourmande pour être un vrai attracteur commercial du centre-ville, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le fonctionnement des centres-villes, c'est pas que simplement de l'animation commerciale, c'est aussi le pari de la convivialité, oui. L'offre de bouche, l'offre de restauration, et c'est important, et puis des animations qui peut y avoir. Et donc ça, c'est important d'avoir cet attracteur-là. On fait ce pari que ça fonctionne mieux et les résultats le montrent. Même s'il y a une vacance commerciale qui est en progression, elle est en moins grande progression que le reste des villes. Et toutes les villes sont en difficulté. On voit bien, même Paris est obligé de faire appel à des marques chinoises de la fast fashion pour redynamiser les BHV. C'est assez triste, mais c'est la réalité en tout cas du monde d'aujourd'hui.
Et alors, depuis juin, vous observez un regain de dynamisme ?
On voit davantage de flux, qu'ils soient automobiles ou piétons, vélos, évidemment. Il y a une appropriation du centre-ville, pas forcément aux horaires souhaités, mais il y a en tout cas un avant et un après. Vous passez en fin de journée sur la place du 11 novembre, il y a énormément de monde et ça, c'est important. Maintenant, il faut transformer les passants, évidemment, en consommateurs dans nos boutiques. Mais ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est de continuer à transformer la ville pour pouvoir accueillir toujours plus d'habitants dans le cœur de ville. Parce que le quartier qui a perdu le plus d'habitants ces 10 dernières années à Laval, c'est le centre-ville. D'où la politique de réhabilitation des friches, des bâtiments qui peuvent être non occupés. On a monté notamment une foncière commerciale qui vise à racheter certes les pieds d'immeubles commerciaux vacants, mais aussi de racheter les appartements au-dessus qui étaient vides depuis de nombreuses années.
À
on les réhabilite.
Ils étaient indécent,
mal classé énergétiquement, complexe, parce que parfois, vous savez, dans les centres-villes anciens, vous pouvez avoir du pan de bois, parfois les cages d'escalier qui ne conviennent pas, en tout cas la cage d'escalier qui est la même pour le commerce et les logements à l'étage, donc il y a un peu de travail architectural, ouais. Et je crois que l'action coordonnée de la collectivité et des acteurs privés, elle est importante là-dessus.
Donc là, cette foncière, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, on a acheté plusieurs actifs commerciaux, notamment rue des Gaules, qui est une rue commerciale qui ne se porte pas bien à Laval, qui est pourtant une artère commerçante importante. On a racheté la cellule commerciale et on va transformer en 3 appartements au-dessus, là où aujourd'hui, il n'y avait que le preneur Armand Thierry qui portait tous les loyers de l'immeuble. Donc vous voyez, là, on va remettre un commerce et 3 appartements. Donc c'est autant de loyers, c'est potentiellement 5 à 10 habitants supplémentaires, autant de consommateurs du commerce de proximité de centre-ville. Et c'est cette logique-là qu'on applique partout dans toutes les rues. On a des projets immobiliers importants de rénovation de friches.
Et justement, alors ces habitants, vous allez les faire venir comment ? Déjà, quels habitants vous vivez ? Des gens qui sont déjà Levallois, Levalloise ou peut-être... Levallois, Levalloise ou des personnes extérieures à la commune que vous voulez attirer. Justement, je pense à par exemple des jeunes familles. On sait que les maires sont friands de jeunes familles avec des enfants pour redynamiser le centre-ville.
On est là aussi pour effectivement réguler le marché. Le marché, il est plus rentable sur du petit logement, du T1, T2, parce que petite surface et gros loyer, et donc c'est beaucoup plus intéressant pour les promoteurs de développer cette ville-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une ville qui est équilibrée, qui permet d'avoir des logements, certes pour les jeunes et nos aînés, mais aussi pour les familles qu'on veut attirer dans les villes-centres, et pas que en première et deuxième couronne, pour des questions de pouvoir d'achat. Donc, d'avoir du T3 et plus à des loyers modérés est vraiment une politique que nous menons. On a la chance d'avoir un bailleur municipal, Levallois, qui, là aussi, réhabilite. Des partenaires comme Action Logement, qui vise à loger, évidemment, les travailleurs. Et ça, c'est important. On est un territoire qui est attractif par nature, parce qu'un territoire industriel qui fait le pari de l'industrie, 22% d'emplois industriels, le double de la moyenne nationale. Et donc, on a créé 5000 emplois en 10 ans. Et donc, c'est autant de personnes qu'on va attirer.
Qu'il faut loger aussi.
Qu'il faut loger et qu'il faut loger convenablement à un prix raisonnable. Et donc, voilà, on a besoin que les centres-villes soient attractifs, évidemment.
Et alors, justement, on parle de ce bassin d'emploi. Il y a quoi comme type d'entreprise qui...
On est à l'image de cette France industrielle qui va bien, à la fois des grandes entreprises monde, comme Lactalis, comme Séché Environnement, et tout un tissu de PME. Principalement, évidemment, nous sommes dans l'agroalimentaire, mais on a aussi de l'industrie automobile. Et depuis quelques années, nous développons l'industrie textile. Là aussi, le Made in France à la cote, et donc beaucoup de sous-traitance dans des grandes marques de luxe. Et c'est important, il y a un vrai savoir-faire. Et la force qu'on a, évidemment, dans notre territoire, c'est un territoire de travailleurs. Et surtout, grâce finalement au coût de la vie qui est peut-être plus faible que dans les métropoles, quand vous avez payé toutes vos charges à la fin du mois, le reste à vivre est plus important que dans d'autres villes.
Et ça, c'est vrai que c'est
attractif.
C'est un sujet, j'imagine, de la part de vos habitants, le reste à vivre.
Le reste à vivre.
C'est quoi le sujet du moment justement, les Levallois, Levalloises, pour quelles raisons ils viennent vous voir en premier ? C'est quoi le sujet qui est un peu sur toutes les lèvres ?
Les difficultés qu'on retrouve, évidemment, dans de nombreux territoires, c'est l'accès aux soins.
Et donc, les déserts médicaux.
Les déserts médicaux, même si à Laval, on est d'une certaine manière protégé parce qu'on reste la ville-préfecture et la ville-centre, mais il y a encore de nombreux Levallois qui n'ont pas de médecin traitant. Et puis, évidemment, l'accueil dans les urgences. Là, on a réouvert les urgences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est un défi permanent et c'est une coopération territoriale qui doit être faite. Donc, on a besoin, évidemment, d'urgentistes et de médecins supplémentaires, mais aussi de tous les professionnels de santé. On a un plan d'attractivité pour attirer spécifiquement, notamment, les professionnels de santé, bien les accueillir dans les maisons médicales ou au centre hospitalier.
Donc, c'est quoi le plan ? Ça consiste en quoi ? Construire des maisons médicales ?
C'est très large. C'est à la fois permettre aux Mayennais de réussir la première année de médecine. Donc, on accueille la première année de médecine à Laval et donc ensuite pouvoir réussir ses études. Bien accueillir les internes à travers une bourse qu'on peut évidemment donner avec le conseil départemental. On a financé un internat. Donc, on loge les internes en médecine, qu'ils soient médecine de ville ou hospitalière. C'est rénover notre hôpital. Et là, on lance un concours d'architecture actuellement pour refaire l'hôpital sur lui-même. Voilà, et puis évidemment, financer des maisons médicales, accompagner les projets pluridisciplinaires de santé.
Et alors, si on devait faire le top 3, alors c'est des problématiques rencontrées par les habitants, justement, pour prendre un peu la température des territoires. Alors, déserts médicaux, la problématique de logement, elle arrive...
Elle est quand même, je pense, dans le top 5 des préoccupations, en tout cas d'être bien logé, d'avoir des factures énergétiques qui ne soient pas trop élevées. Ouais. Parce que sur les questions de pouvoir d'achat, ça a un énorme impact. Là, on vient de remettre le chauffage depuis quelques semaines. Je sens des Levallois qui viennent me voir en permanence en me disant « c'est difficile ». On espère recevoir le chèque énergie pour pouvoir évidemment payer. Donc, on voit que la transition énergétique, elle est éminemment contributrice de la réduction des inégalités. Il ne faut pas la négliger et continuer à la soutenir.
Et en termes de logement, pareil, il y a le taux de propriétaires à Laval.
Un Levallois sur deux est propriétaire de son logement. Donc, oui, c'est assez faible. Donc,
c'est un peu en dessous de la moyenne. C'est 57%
moyenne. On est un peu en dessous de la moyenne nationale. On a évidemment 32-33% de logements sociaux. dont deux principaux bailleurs, un bailleur municipal et un bailleur départemental. Donc c'est des bailleurs finalement de proximité, c'est une spécificité de notre territoire, ce qui permet évidemment de bien entretenir le logement, en tout cas de les rénover, et puis évidemment de continuer à développer du logement. Et puis on expérimente le bail réel et solidaire sur quelques opérations immobilières.
Et alors ça fonctionne ?
Ça fonctionne, même si je pense que le plus important reste l'accession à la propriété et d'avoir tout un parcours résidentiel du logement social, de l'accession soit BRS, soit en accession sociale, et pour devenir propriétaire, parce qu'on sait qu'à la fin de sa carrière professionnelle, être propriétaire, c'est être plus serein pour sa retraite.
Ouais, bien sûr.
On a encore trop de retraités pauvres à Laval, 6% de retraités pauvres, et donc c'est pas la même chose si vous êtes retraité propriétaire ou non propriétaire.
Bien sûr. Et justement, est-ce que les Lavallois, Lavalloises ont pour la plupart le désir d'être propriétaire ?
Il y a un souhait. C'est pas, en tout cas, j'ai pas de statistiques à vous donner, mais c'est quand, surtout quand ils le peuvent. Je pense qu'on empêche toute une des catégories de personnes à accéder à la propriété. Donc, on sent en tout cas une explosion de demandes de logements sociaux qui m'inquiète terriblement en tant que maire, évidemment. C'est de pouvoir continuer à loger les Lavallois qui le souhaitent, surtout face au phénomène de desserrement familial, les couples qui divorcent. Pouvoir continuer à loger les deux parents dans la ville me paraît être un objectif politique nécessaire pour l'avenir des enfants.
Oui, c'est vrai que le dernier chiffre qu'on a concernant ces demandes de logements sociaux, c'était 2,8 millions de Français qui ont fait la demande d'un logement social, c'était en octobre dernier. Et Emmanuel Coste nous a dit en octobre que d'ici décembre, on sera à 3 millions de Français. C'est la présidente de l'USH, de l'Union sociale de l'habitat. Donc c'est vrai que c'est assez alarmant, c'est la première fois. Bon, après, évidemment, la population grossit. Vous l'avez dit, on vit moins nombreux par foyer. Il y a ça aussi, c'est une évolution des modes de consommation, on va dire, du logement. On divorce beaucoup plus, il y a beaucoup plus de parents solos. Mais c'est vrai que tous les territoires sont touchés.
Et on vit plus longtemps. Donc comme on reste plus longtemps dans son logement, il faut continuer à construire du logement pour rester à un niveau de population équivalent.
Et on ne construit pas.
Et donc nous, on est plutôt à 300 logements nouveaux dans la ville depuis tous les ans, depuis quelques années. Donc on est quand même sur une production de logements qui est nécessaire. Ouais. Nous, il nous faut minimum 150 à 200 logements pour maintenir la population.
Par an.
L'allongement de la durée de vie, évidemment le desserrement familial, plus la rénovation urbaine qui nous amène à démolir des logements pour pouvoir en reconstruire. Il faut évidemment...
Alors, on parle beaucoup de nouvelles solutions, justement, pour créer des logements. Par exemple, je pense à la surélévation. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez à Laval ?
Oui, c'est cette densification finalement douce qui est très pragmatique. Ouais. On le fait notamment dans la rénovation urbaine dans nos quartiers populaires. On a une opération qui est exemplaire, qui a été valorisée par l'USA, justement. Ouais. Emmanuel Coste est venu la visiter, la Coconnière, dans le bas du quartier du Pavement, où là, on a une barre d'immeubles... vieillissante, qui a été coupée en deux, rehaussée et même agrandie. Et donc on voit que c'est le jour et la nuit, plutôt de la nuit au jour, c'est un avant-après phénoménal, parce qu'on refait, on permet d'avoir des balcons, des ascenseurs, et puis la surélévation permet d'avoir des logements quand même en duplex, en triplex, de très grande qualité, on a envie d'y vivre, très clairement, de se projeter. Et moi, en tant que maire, je regarde toujours, est-ce que je suis prêt à m'installer avec ma famille dans ce logement ? C'est un critère aussi très personnel, mais je regarde fortement les opérations sous l'œil personnel. C'est important d'avoir cette vision-là.
Cette vision un peu plus subjective, on va dire.
Tout à fait.
On est au Salon des maires et des collectivités locales. En tant que maire, qu'est-ce que vous venez chercher ici, sur cet événement ?
On vient chercher évidemment les bonnes idées, l'échange entre pairs, de pouvoir se conseiller, s'aider, échanger sur les problématiques que nous vivons et les solutions qui ont pu être mises en place par les uns les autres. Et puis évidemment, l'échange avec l'exécutif, le gouvernement. Et c'est important de pouvoir leur dire nos préoccupations et peut-être les solutions qu'on imagine. Un exemple sur un territoire industriel comme le mien, c'est important d'avoir France 2030 et de réindustrialiser, mais c'est important d'avoir aussi peut-être un France 2030 dédié au logement pour pouvoir bien loger et accueillir la population qui viendrait. Donc voilà, c'est des messages qu'on veut faire passer au plus haut niveau.
Et qu'est-ce que vous espérez pour les années à venir, en tout cas pour l'année prochaine, pour la France ? Je pense par exemple à des mesures prises par le gouvernement.
Continuer à avoir des mesures qui permettent de donner des libertés d'action, évidemment, aux collectivités territoriales. Je pense que la France, elle fonctionne sur trois piliers. La démocratie locale que représentent évidemment les élus locaux, la démocratie nationale avec les parlementaires et l'exécutif, et la démocratie sociale aussi, les partenaires sociaux. Il faut garder un équilibre entre ces triptyques de pouvoir d'action, de financement, évidemment. Donc ça, c'est vraiment un vœu que je formule. Peut-être des actions aussi de réfléchir à des grands plans d'investissement qui auraient du sens sur les territoires comme les nôtres, finalement, de taille moyenne, mi-urbain, mi-ruraux, mi-mi, on va dire. Et c'est important. La question des mobilités, moi, j'aimerais bien un grand plan d'investissement pour la voiture électrique, décarbonée, en leasing social pour toutes les populations, notamment de communes rurales, qui n'ont pas d'alternative au tramway, le métro ou le transport public qui serait trop coûteux. Je pense qu'il faut être malin et à la fois réindustrialiser, à la fois créer des emplois et puis trouver des solutions évidemment pour cette transition écologique nécessaire sur nos territoires.
Eh bien, merci beaucoup Monsieur le Maire pour ces éclairages concrets et cette vision du terrain. On se retrouve donc dans quelques instants, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales sur nos antennes Radio Imo et Radio Territoria. À tout de suite.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.